Chapitre 6e. Ils étaient seuls en face l'un de l'autre, seuls après des années, seuls après la séparation de leurs deux existences. Leur double vie continuait au hasard des destins, avec les océans et l'espace pour les séparer. Ils étaient seuls, et une sorte de timidité presque douloureuse leur venait tout à coup à l'un et à l'autre, comme si chacun de ces deux êtres craignait d'en trop dire au premier mot qu'il allait prononcer. Norton était au Havre, à son office, expédiant des instructions à New York. Mais ni Sylvia ni M. de Solis ne pensaient à Norton. Ils ne songeaient qu'à leur passé, ce cher passé qui n'avait point de nom, à ce qu'il y avait de tranché dans leur destinée, à tout ce qui aurait pu être, à tout ce qui n'était pas et qui ne serait jamais. Pas un mot d'abord, puis, doucement, une sorte de contemplation muette et triste qu'à la fin, George interrompit en disant « Avouez qu'il y a d'étranges hasards dans la vie. « Lesquels ?» demanda Sylvia comme si elle ne devinait pas ce qu'il voulait dire. Et lui, là, tout à l'heure, ce pauvre enfant ne pouvait guère se douter des souvenirs qu'il réveillait. Quels souvenirs ? Elle s'efforçait de se dérober encore à la confidence qui montait aux lèvres de Solis. « Quels souvenirs ? Vous les avez oubliés » fit-il. « Je ne dis pas cela, » répliqua Mrs. Norton froidement, « mais je sais qu'il serait assez cruel de me les rappeler. Et à quoi bon ?»« Aussi, vous demandais-je bien pardon d'y avoir fait allusion presque involontairement, si je puis dire, mais cet enfant ?» Et Solis hochait la tête. « Il n'y a que les mains innocentes pour vous faire souffrir sans le savoir. » Sylvia essaya de sourire. « Bah, » dit-elle. Vous n'en êtes pas, monsieur de Solis, à ignorer que l'existence est une suite plus ou moins longue de souffrances, plus ou moins consolées. Il releva le mot vivement. Consoler ? Voilà un mot qui est presque aussi douloureux pour moi que la méprise du petit Francis Ruault. Douloureux, pourquoi ? Demanda Sylvia. Parce que je ne suis pas moi de ceux qui savent se consoler. Monsieur de Solis avait mis un tel accent de sincérité douloureuse dans ses paroles, que l'honnête femme, mélancoliquement, lui répondit, avec une douceur voulue et comme implacable, pour lui donner à entendre que tout était fini, passé, enfui. « Il faut pourtant prendre la vie comme elle est, mon cher marquis, ni souriante, ni tragique, un peu terne, un peu grise. Mais tenez, comme la mer aujourd'hui, ayant cela de bon que chaque jour emporte un peu de notre destinée, comme chaque vague, là-bas, emporte quelques débris tombés sur la plage. » « Alors, » dit Solis en baissant la voix, et un tremblement dans cette voix, « tout ce qui a été est loin, emporté, bien loin. »« Pourquoi me demandez-vous cela ?» fit Sylvia. « Ce n'est pas bien à vous de chercher à savoir ce qui peut rester de vous dans ce cœur de femme. Je ne vous ai jamais oublié. Vous me connaissez assez pour savoir que je suis fidèle à une affection comme à un serment. Mais il faut vous oublier devant la femme de Richard Norton, que vous avez pu rêver autrefois de lui donner votre nom. Le sort ne l'a pas voulu. Mon père a conseillé, exigé ce mariage. Il y voyait pour moi toutes les promesses de bonheur futur, un mari dévoué, courageux et bon. Et vous avouerez, ajouta la jeune femme, que mon pauvre père pouvait plus mal choisir. Il n'y a pas d'homme au monde que j'aime plus profondément que Richard, répondit Solis. Mais vous pardonnerez à mon amitié ces questions qui me viennent aux lèvres maintenant, chaque fois que je vous vois. Les promesses de bonheur que votre père entrevoyait pour vous, l'avenir, les a-t-il tenues ? Je vous répète que c'est le plus fidèle et le plus respectueux de vos amis qui vous parle, madame. Je vous avoue que je me sens inquiet en vous devinant triste. Et vous avez beau dire, chaque vague là-bas n'emporte pas toutes les épaves, non. Non, il en restera, tout à l'heure, sur le sable. Il en restera, au fond de nos cœurs. Ce n'est la faute de personne, dit Sylvia nettement. Si je suis souffrante, et c'est au docteur Farjas qu'il faut demander de me guérir. Le reste du monde n'y est pour rien. Alors, vous êtes heureuse ? Il la regardait, un peu anxieux, souhaitant et redoutant à la fois sa réponse. Je suis heureuse, parfaitement heureuse, dit-elle, sans paraître se contraindre ou mentir. La voix de Solis s'altéra un peu. J'aime maintenir cette assurance de vous-même. Cela me rassure et me console légèrement à mon tour. J'aurai plus de courage à me résigner.
Vous résigner ?
Ah, dit-il avec une sorte de brusquerie. Tout le monde ne peut le trouver aussi facilement que vous, ce bonheur dont vous me parlez. D'autres, pour rencontrer l'oubli qui vous attendait à votre foyer, courent l'univers et usent leur vie à chasser un souvenir qui les poursuit partout. Ils s'imaginent que les êtres qu'ils regrettent souffrent des mêmes regrets, éprouvent les mêmes angoisses au souvenir des rêves perdus.
Ah, bien oui,
esprit chimérique, chasseur de romans, cœur naïf. Ils retrouvent quelques beaux jours l'être dont ils se sont éloignés, qu'ils ont voulu fuir. Et quand ils redoutent de rencontrer chez lui une tristesse égale à la leur, alors ils se heurtent à je ne sais quelle pitié consolée, à une résignation devenue un bonheur. Ils n'ont qu'une chose à faire, voyez-vous, décidément. Reprendre le voyage interrompu, aller au hasard devant eux et disparaître. Peut-être qu'eux aussi pourront jeter en chemin, à la volée, le fardeau de leur premier rêve. Le regard doux, confiant et attendri de Sylvia, enveloppé Solis comme d'un grand reproche, et Mrs. Norton tristement, devant cette amertume soudaine. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez le plus dévoué de mes amis. Est-ce un ami qui parle comme vous le faites? Et que me reprochez-vous, après tout? D'accepter la vie telle qu'elle est? Cela ne s'appelle pas une résignation, comme vous dites, mais un devoir. Vous avez raison, Georges. Et il tressaillit à ce nom d'autrefois. Le mieux, à présent, est de vous éloigner, de me laisser dans ma paix, dans la tristesse ou la joie de ma vie nouvelle. Chaque parole que vous me diriez me serait douloureuse, et en dépit de ce que vous pouvez croire, le souvenir de nos pauvres honnêtes rêves de jeunes gens, autrefois, est assez vivant dans ma pensée pour que votre présence ravive des regrets que je croyais effacés pour toujours. Des regrets. Vous voyez bien, dit-elle encore, se méprenant au cri d'espoir de Solis, que le moindre mot peut devenir cruel entre nous. Vous me disiez que vous vouliez reprendre votre existence de chercheur, vous avez raison. Et je remercierai le hasard de m'avoir permis de venir en France pour vous avoir revu et vous avoir supplié de m'oublier. Mais tout à fait cette fois, tout à fait. Vous fuir ? S'écria-t-il. Est-ce que je puis, Sylvia ? Vous oublier ? Jamais. Eh bien, au moins ne le dites pas. Je croirais que vous avez pris plaisir à m'affliger. Gardez-moi le secret de votre affection, comme vous gardez cette affection elle-même. Laissez-moi croire qu'on peut effacer de son cœur même ce qui semble le plus profondément imprimé. Et faites-vous une vie nouvelle, mon ami, digne de vous, de votre courage, de votre science. En un mot, vous qui me reprochez d'être heureuse, tâchez d'être heureux. Elle ajouta, cherchant toujours un sourire qui la fuyait. C'est peut-être ce que j'attends pour être consolé. Mais il ne répondit, lui, que par un cri désespéré d'amour. Le bonheur, il était avec vous, le bonheur. Eh bien, dit Sylvia, toute tremblante, je vous assure que vous le trouverez ailleurs. Il doit en rester, allez. Je l'ai bien peu, si peu, dépensé. La mélancolie de ces derniers mots fit vibrer les nerfs de Solis, et prenant les mains de Sylvia dans un élan de tendresse dévouée. Ah, vous voyez bien que vous souffrez.
Égoïste,
dit-elle doucement. Vous croyez donc avoir le seul le droit de souffrir ? Elle venait de trahir avec sa résignation souriante l'état même de son âme. Mais par une sorte de pudeur ou de crainte, rapide, elle se reprenait bien vite, faisant glisser ses mains d'entre les mains de Georges. Et pour couper court à ses confidences qui l'oppressaient, l'entraînait sur la pente des souvenirs, elle s'échappa en quelque sorte, elle parla longuement de la mère, de Mademoiselle Offenburger, de tout ce qui était banal, d'usage courant, et formait la conversation de tout le monde. Mais la pensée de Georges était ailleurs. Il n'écoutait pas, répondait machinalement et se sentait heureux pourtant d'être auprès d'elle, enveloppé comme d'une torpeur de rêve. Ils étaient là, dans ce duo de propos inutiles qu'ils échangeaient comme pour se fuir eux-mêmes depuis un moment, lorsque le pas de Norton leur arriva, et ils n'eurent aucune sensation de crainte ou d'ennui lorsque Richard entra. Au contraire, la venue du mari les délivrait presque d'une angoisse, à travers les banalités dernières, il sentait que des aveux, des tendresses montaient, et ni elle, ni lui ne voulaient s'y laisser gagner. Norton était donc le bienvenu. Il parut soucieux d'ailleurs à Solis, et Sylvia le trouva fort pâle. Un bon sourire éclaira pourtant son visage rude lorsqu'il tendit la main à son ami, puis quand il demanda à Mrs. Norton si elle se sentait mieux, si le docteur Fargeas était content d'elle. « Je n'ai pas vu le docteur aujourd'hui. »«
Tant mieux, ma chère. »«
Cela prouve qu'il n'est pas inquiet de votre état. » Ils parlèrent alors pendant quelques instants encore de choses indifférentes, Norton laissant cependant entrevoir quelques craintes vagues à propos de certaines mines qu'il ne nommait pas. Puis Sylvia demanda à M. de Solis la permission de se retirer. Elle était un peu lasse et reverrait le marquis bientôt, et dans le salut qu'elle lui donnait, elle mettait une bonne grâce, une mélancolie pleine de sous-entendus que devinait Georges et qui voulait dire « Eh bien, oui, nous nous aimions, mais le voilà, celui que je dois aimer. » Solis avait parfaitement compris. Il la regardait s'éloigner avec l'impression que la douceur des paroles échangées tout à l'heure aboutissait à la constatation cruelle de cette réalité. Toutes les rêveries se heurtaient à un fait et s'y brisaient. Il lui semblait être tombé du haut d'un rêve, et il se retrouvait à présent devant le mari, ce vivant obstacle, ce rival qui était son fraternel ami. En dépit de sa propre souffrance, qui lui donnait bien le droit égoïste de ne songer qu'à lui-même, Georges remarqua alors une sorte de nervosité, une inquiétude chez Norton. Est-ce que quelques complications étaient survenues du côté de l'Amérique? Pris par tant d'intérêts divers, Norton ressemblait à un général d'armée surveillant ses troupes engagées à la fois de tous côtés. Il devait y avoir, évidemment, une préoccupation matérielle quelconque chez l'Américain, mais à la première question du marquis, Richard répondit vivement que ce n'était pas les affaires qui l'obsédaient en ce moment, pas le moins du monde. « Et qu'est-ce donc ? » demanda Solis. « Mon Dieu ! » fit Norton. « C'est assez absurde et, pour l'homme tout d'une pièce que vous savez, cela va vous paraître peut-être un peu ridicule. Je deviens nerveux, moi aussi. Je suis à la mode. La grande névrose, vous savez. Je vais passer à l'état de client du docteur Fargeas. Oui, moi, le Yankee. L'homme de basalte, l'homme de fonte, l'homme machine. » Il essayait de rire. « Je ne dors pas, je ne dors plus, c'est idiot. Et dans l'insomnie, il me passe une infinité de visions par la cervelle. » « Vous n'avez rien, demanda Georges, qui puisse vous attrister. « J'ai cela, d'abord, ma santé, fit Norton. Visiblement, depuis que je suis en France, je subis une sorte de crise. Je n'en dis rien, ne voulant ni inquiéter Mrs. Norton ni me donner l'apparence d'une petite maîtresse nerveuse, ce qui serait bouffon avec mon apparence de bœuf américain. Mais enfin, le fait est là. Ai-je trop travaillé ? Surexciter mes nerfs outre mesure, c'est possible. Ce qui est certain, c'est que ces insomnies m'écrasent, pour parler comme Offenborger. Je n'ai plus qu'un sommeil difficile, coupé de réveils brusques. Le cerveau galope, galope toujours, comme un cheval lancé, tandis que le corps veut sommeiller. J'ai des bourdonnements, comme des sons de cloche dans l'oreille, ce que les bonnes gens plus vulgairement appellent le tintouin. Et Norton souriait. C'est peut-être que je m'en suis donné trop, du tintouin. Bref, j'éprouve une lassitude visible. Cette perte du sommeil m'agace. Il m'a fallu une certaine énergie pour renoncer à l'usage de ce chloral qui m'endormait la nuit, mais m'abrutissait au réveil. Alors je veille, je pense, les nuits passent. Mais dans ces veillées de fièvre, des idées tristes, absurdes, me tracassent le cerveau et m'obsèdent. « Je vous demande pardon de vous parler de tout cela, mon cher Georges, moi qui vous disais toujours de substituer l'action au rêve et de vous moquer des diables bleus. Mais j'ai comme besoin de me livrer, de parler, de jeter au vent d'une confidence tout ce qui m'étouffe et m'inquiète. Mon corps est ici, mais ma pensée est là-bas, en Amérique. Je travaille comme un nègre. Toutes ces existences d'ouvriers, de mineurs, de négociants, d'armateurs, de chauffeurs de locomotives, suspendus à la mienne, me préoccupent. Et j'ai bien peur d'une chose. Laquelle ? Demanda Solis. Mais Norton s'était arrêté. Puis, nerveusement, comme si une impulsion intérieure le contraignit à déclarer ce qu'était, en réalité,
la grande inquiétude de sa vie. « Eh bien, j'ai bien peur d'avoir usé mon bonheur intime à faire vivre tant de gens. Votre bonheur ?» C'était le même mot, prononcé tout à l'heure par la femme qui se retrouvait sur les lèvres du mari, le bonheur. Mot éternel de l'humanité prise de ce rêve, cri d'angoisse de tous les êtres, appel désespéré vers la terre promise, la terre inconnue, le bonheur. « Oui, fit Norton, je ne suis pas heureux. Et cela tout simplement parce que Sylvia n'est pas heureuse. » Solis sentit à ce nom de la jeune femme, nerveusement prononcé par le mari, une sorte d'angoisse brutale le prendre à la gorge, tout à coup, comme une angine. Il eût voulu que la conversation en restât là, éprouvant subitement une certaine gêne. Ce tête-à-tête subi prenait un caractère inattendu de solennité qui troublait le jeune homme jusqu'à l'irriter. « Comment Madame Norton ne serait-elle pas heureuse » dit-il d'un ton bizarre, pour couper court à un silence presque gênant. Car maintenant Norton songeait, muet, regardant sans les voir, l'horizon et la mer au loin. « Elle a tout pour être parfaitement heureuse. Ce sont des idées que vous vous faites là. Vous l'aimez ?»« De toute mon âme. Elle vous aime, » dit George un peu plus bas. Norton n'avait pas répondu et s'était mis à marcher, baissant la tête, s'arrêtant parfois pour regarder machinalement le tapis et l'œil perdu. « Mon cher ami, » dit-il brusquement, « on ne sait jamais si une femme vous aime ou ne vous aime pas. Ou plutôt, on devine bien, quand on n'est ni un sot ni un fat, qu'elle ne vous aime plus ou ne va plus vous aimer alors même qu'elle croit peut-être, de très bonne foi, vous aimer encore. » « Vous rappelez-vous, Miss Harley, vous ne trouvez pas que Sylvia ait changé ?» demandait-il tout à coup à Solis qui essayait de sourire. « Non, je trouve Mrs. Norton toujours la même. Eh bien, elle est non seulement souffrante, mais malheureuse, j'en suis certain, » dit Norton brusquement. Elle aussi avait attendu de la vie des bonheurs que la vie n'apporte point. Et puis l'homme qu'elle a épousé était tout autre que celui que je suis devenu. J'ai beau me donner tout à elle, je me dois aussi à ceux qui vivent de moi, là-bas. Elle m'a aimé, elle ne m'aime plus. » Il ne savait pas quelle torture il infligeait à George. Il semblait à Norton qu'il eût une satisfaction à se livrer, à écarter les bords de la plaie pour montrer le fond. Il avait cette âpre joie des souffrants qui éprouvent à aggraver leur douleur, des voluptés morbides. À qui se fût-il confié d'ailleurs, sinon à cet ami, plus jeune que lui, mais dont l'affection certaine lui plaisait. Et puis, il ne raisonnait pas, il ne calculait pas. Nerveusement, il se laissait emporter à ses confidences. Il dégonflait son cœur avec une amertume qui lui faisait du bien, le consolait. Non, Sylvia ne l'aimait plus, il en était certain. Les vagues mélancolies, les songeries de la jeune femme, ses nervosités qui résistaient à la science même du docteur Fargeas, ne lui laissaient aucun doute. Il l'avait condamnée à une vie qui pesait lourdement sur ses épaules. Une journée de notre existence ressemble, quoi que je fasse, à toutes les autres journées. C'est la monotonie dans le labeur. Et, ma parole, il est des moments où je rejetterai volontiers le fardeau de toutes ces affaires, et où, égoïste, j'essaierai enfin de ne vivre que pour moi seul et pour elle. « Eh bien, dit fermement Solis, pourquoi ne le faites-vous pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Norton haussa les épaules. « Demandez à mes mineurs, à mes ouvriers, aux gens de mes ranges, s'ils n'ont pas autant besoin de moi que j'ai besoin d'eux. » « Sans aucun doute. Mais les mines vendues, un directeur nouveau les ferait vivre aussi bien que vous, vos mineurs. »« C'est une question, ça, » dit Norton. « J'ai englouti des sommes énormes dans cette exploitation qui est difficile. Un autre, un nouveau venu, procéderait par voie de réformes économiques et il y aurait plus d'un foyer sans soupe le soir. » parmi mes braves gens. Alors c'est par philanthropie que vous continuez à rester dans les affaires? C'est par devoir. Il y a comme une immense grappe humaine pendue à moi. Ça me fait plaisir. Et dans un relèvement de tête, l'Américain se redressait, comme s'il eût là, autour de lui, des milliers et des milliers de gens qu'il traînait, qu'il faisait vivre. J'ai l'orgueil d'être le distributeur de pain à toute une foule. Oh, ce n'est pas l'embarras. J'ai trouvé ici même des gens tout prêts à partager ma mission. « Offenburger ?» demanda M. de Solis. « Offenburger, justement. je l'aurais parié. Il faut que le banquier sente non pas de la philanthropie, mais des pépites dans l'affaire pour qu'il y mette l'ongle. C'est un malin, Offenburger.
Et c'est un bon homme, en fin de compte, dit Norton, infatué de son argent, glorieux, bruyant, mais pas méchant.
Il vous trouve très aimable, par parenthèse.
Parbleu, dit l'Américain, si vous vouliez vous marier, voilà une occasion. Mademoiselle Hélène est assez jolie, je pense.
Très jolie.
Mais elle a deux grands défauts, elle est trop riche.
On le lui passera, ce défaut-là.
Et trop savante.
Elle est de son temps.
Alors j'aurais mieux aimé vivre du temps de sa mère.
Qui devait être jolie,
jolie,
si elle lui ressemblait.
Drôle de filiation, dit le marquis. Le père, en bourgeois et juif, la mère, anglaise et protestante.
Qu'est-ce qu'elle est, mademoiselle Hélène?
Catholique.
Complet, le méli-mélo de la société actuelle.
Et il essaya encore de sourire, se sentant pris d'une envie de fuir, ne sachant pas comment détourner de lui les confidences navrées de ce mari dont l'affection allait à lui naturellement. Il s'efforçait d'enrayer l'entretien par quelque ironie qui était sur ses lèvres et non dans son cœur. Puis, tout à coup, se sentait étrangement troublé parce que Norton, d'un mouvement instinctif, lui saisissait la main et disait, la voix brève,
« Au fait, vous avez raison, ne vous mariez pas. Il y a trop de douleur dans ce voyage à deux où l'un laisse fatalement l'autre en chemin. »
Et quand on s'est senti aimé d'un amour vrai, rien, vous entendez, rien n'égale la souffrance de celui des deux qui devine à un moment donné qu'on ne l'aime plus, que c'est fini, que la pensée de l'être adoré va ailleurs, qu'on en aime un autre. Eh bien moi, mon cher, j'en suis là. Et voilà le fond de mon cœur. Et voilà pourquoi je souffre à crier, à me briser la tête contre la muraille. »
Solis sentait sur sa main la pression brûlante des doigts de cet homme secoué d'une fièvre nerveuse. Il avait ressenti, lui aussi, une secousse, comme l'engourdissement soudain d'un choc électrique, lorsque, presque malgré lui, avec rage, Norton avait laissé jaillir cette confidence, chaude comme un jet de sang.
« Un autre, on en aime un autre !»
Un éblouissement avait zigzagué devant lui, et d'instinct, son cri avait été une consolation donnée, un mensonge fait à Norton et à lui-même.
« Allons donc, c'est de la folie. Mrs. Norton n'aime que vous. »
Et s'entendant parler, il avait éprouvé une sensation qu'il pouvait analyser jusque dans son trouble. Il lui semblait qu'il avait répondu trop vite et que sa voix, en parlant, tremblait, comme si le mensonge eût éclaté, visible. Il l'aimait. Il l'aimait, cette Sylvia dont Norton regrettait l'amour. Et cet amour, son cri poussé, n'allait-il pas le trahir?
Oh, je ne dis pas que Mrs. Norton ne soit point ce qu'il y a de plus honnête en ce monde,
répondit le mari avec un amer appétit de confidence. Je dis qu'elle m'échappe, qu'elle se réfugie pour me fuir, moi qui suis la réalité, dans quelques rêves, quelques songeries, quelques romans. Cet autre dont je parle, je ne veux pas dire qu'il existe, mais ce que je sais, ce que je sens, et ce qui me torture, c'est que je ne suis plus seul dans la pensée de Sylvia. C'est que la vie que je lui ai faite a abouti pour elle à une déception. C'est que moi, l'adorant, a éprouvé une joie rien qu'à vous parler d'elle. Nous sommes, elle, malheureuse à crier, moi, malheureux à pleurer. Voilà la vie, mon cher. Et il y a des gens qui font des lâchetés pour la conserver.
Solis était effrayé de cet état d'âme, de cette souffrance du mari qui, avec une acuité singulière, lisait à livre ouvert dans le cœur de sa femme et parlait précisément de cet autre que sa femme pouvait aimer. À qui? À l'autre, à lui, Solis, à lui, l'aimer d'hier, le voleur d'amour de demain. Et il ressentait un sentiment de gêne atroce. Il eût voulu encore une fois arrêter Norton dans ses confidences, et pourtant, il ressentait une joie profonde à entendre parler ainsi de Sylvia. Il la revoyait, tandis que le mari parlait, avec son air triste et doux, et il l'entendait avouer qu'elle pourrait l'aimer.
George avait un petit frisson presque terrifié. Il se demandait si par hasard Norton, qui ne pouvait cependant rien soupçonner, ne voulait point pénétrer son secret en lui livrant le sien. Mais le Yankee était incapable d'un machiavélisme semblable. C'était une souffrance intérieure qui seule le poussait à se livrer ainsi, comme si,
en se dégonflant le cœur, toute l'amertume en eût coulé par une fissure.
George prit le parti le meilleur pour cacher son émotion. Ce fut d'essayer encore de rassurer Norton en riant.
« Allons, Richard exagérait. Son état d'esprit lui montrait des fantômes où il n'y en avait pas. »
Comment Madame Norton n'eût-elle pas été heureuse dans la vie qu'il lui donnait et aimée comme elle se sentait aimée par lui ?«
Voulez-vous que je vous dise ?» fit Solis. « Vous êtes injuste envers le sort. Vous vous plaignez d'être trop heureux.
Je sais ce que je dis.
Mais après tout, quoi, il faut bien accepter les choses comme elles sont.
Je vous demande pardon seulement de vous avoir ennuyé de ce que vous appelez mes fantômes. »
« Non, pas ennuyé, » interrompit George, « attristé. »
« C'est à peu près la même chose.
Là-dessus, je vous prie de m'excuser, cher ami. Mais malheur qu'il est, j'ai ma correspondance à achever. Quelques lettres à écrire, comme on dit dans vos comédies. Oubliez donc mon verbiage. Je ne suis pas bavard d'ordinaire. Mais aujourd'hui, je me suis terriblement rattrapé. Je vous le répète, pardon.
On a toujours tort de parler.
Même à un ami, fit M. de Solis, un peu contraint.
Oh, mon cher, quand on se confie à un ami qui ne vous aime pas, on l'ennuie.
Et un ami qui vous aime, on l'attriste.
Allons, à demain.
Et imperceptiblement, le marquis hésita à serrer la main que lui tendait le mari.